Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dawani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halo Gmaoui.
Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
De plus en plus, des voix s'élèvent et sollicitent une coopération géostratégique plus dynamique entre la Russie et le Mali. C'est ce que souhaitent en tout cas des mouvements naissants, notamment le corps des volontaires pour la réussite de la transition au Mali. Cette situation intervient au moment où certains Maliens estiment que la solution ne peut venir que de ses fils. Avec ces mouvements pour un changement de coopération militaire, la France est-elle en train de perdre sa coopération avec le Mali au profit de la Russie? C'est le thème central de notre grand dialogue de ce soir, réalisé en partenariat avec le programme d'engagement civique PEC. Pour parler de cette situation, nos invités sont Bassirou Ben Doumbia, auditeur en politique publique, Boubacar Bokoum, politologue, il n'est pas encore arrivé. Mohamed Djara, spécialiste de la gestion de performance publique. Maître Cheikh Oumar Kounare, il est au téléphone. Moi, je suis Mariam Maïga. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Avant de rentrer dans le vif de cette émission, je vous invite à écouter Kassim Koulibaly, président du Corps des volontaires pour la réussite de la transition au Mali, une association qui demande de plus en plus l'intervention de la Russie dans la gestion de la crise malienne. Il est au micro de Mouda Issoufi Maïga.
Nous, en tant que corps des volontaires pour la réussite de la transition au Mali qui existent depuis janvier, nous avons mené des réflexions. Nous avons abouti à la conviction qu'il y a quatre refondations qu'il faut faire au Mali. La refondation économique, la refondation diplomatique et la refondation écologique. Alors donc c'est dans cette réflexion-là que nous avons vu qu'il y a un groupe de pays que nous appelons les BRICS. Les BRICS qu'on appelle Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Donc ils constituent un nouveau pôle qui balance, n'est-ce pas, le pôle des autres regroupements des pays occidentaux qui appuient vraiment la coopération internationale. Alors donc, quand la situation du Mali est assez désastreuse, calamiteuse ici, nous estimons qu'en matière militaire, en matière de défense et de sécurité, la Russie aujourd'hui se positionne comme le pays, dans le cadre de la géostratégie, de la géodéfense internationale, comme le porteur vraiment de sens, le porteur de relève, n'est-ce pas, pour cette lutte contre le terrorisme et le djihad. Et la lutte vraiment pour la bonne gouvernance au Mali. Donc nous avons estimé que la Russie serait un partenaire privilégié, qui n'est pas une relation nouvelle, mais qu'il faut redynamiser et qu'il faut mettre au même niveau que les autres coopérations, notamment sont avec la France. Nous estimons qu'aujourd'hui, la France, l'Union européenne ou la Balkane pourraient se sentir heureuse parce qu'elle est ici sur le territoire malien depuis environ 9 ans. Il n'y a pas les résultats escomptés et nous sommes tous d'accord, que ce soit le Mali, la France ou les pays du G5 Sahel, qu'il n'y a pas les résultats escomptés parce que nous ne pourrions pas continuer. Donc je pense que ce sera peut-être un grand soulagement pour la France, pour avoir d'autres partenaires, pour soulager un peu ses finances publiques à elle-même, mais aussi aider à atteindre les résultats qu'il faut, c'est-à-dire éradiquer le djihadisme et permettre au Mali de recouvrer sa stabilité et son intégrité territoriale et de pouvoir accélérer, amorcer son développement économique et social durable. Nous pensons qu'il n'y a pas de conflit possible. Le Mali est un État souverain. Le Mali doit connaître ses intérêts stratégiques et ses besoins tactiques. Et pour le temps, je pense que nous, majeurs, nous sommes assez instruits, informés et comprenons comment le monde fonctionne. Nous devons défendre nos intérêts stratégiques et faire en sorte que la coopération internationale puisse être à notre assistance avec toutes les nations qui ont la capacité technique, technologique, stratégique, diplomatique, économique, financière d'accompagner le Mali.
Donc ça veut dire que toutes les forces étrangères qui sont présentes sur le territoire malien, y compris les nôtres, ont failli dans la gestion des différentes crises que le Mali a connues. C'est pourquoi vous êtes tourné vers la Russie, n'est-ce pas?
Alors, nous ne disons pas qu'il y a une faillite, c'est parce que s'il y a une faillite, ça veut dire qu'il y a le chaos général. Je pense qu'il y a des progrès qui se font de plus en plus. Les forces armées et les défenses de sécurité du Mali sont en train de monter en puissance. Il y a des progrès qui se font au jour le jour. Mais nous estimons que peut-être que ces progrès ne sont pas assez accélérés. Vu vraiment les défis et les enjeux qu'il y a par rapport à la paix et la sécurité au Mali, nous estimons que l'arrivée ou le renforcement de la coopération bilatérale, n'est-ce pas, intense, du côté militaire et de la défense de la sécurité avec la Russie pourrait accélérer vraiment la lutte contre le terrorisme, contre le djihadisme, et qui est une volonté de toutes les de la communauté internationale. Nous pensons que la Russie, effectivement, va apporter un coup de pouce et d'accélérateur pour que nous puissions engranger davantage de résultats, pour que le Mali puisse se retrouver en paix avec lui-même et avec le reste du monde.
Kassim, dernière question. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous êtes là en train de faire concrètement sur le terrain pour que cette coopération soit redynamisée et pour que votre voix puisse être entendue par les Russes, et où est-ce qu'on en est dans cette démarche?
Alors, dans cette démarche, je pense que cette démarche est multiforme. Premièrement, il y a une démarche d'information que nous faisons auprès des citoyens, que ce soit hommes, femmes, jeunes et personnes âgées, pour qu'elles prennent conscience des enjeux géostratégiques dans lesquels le Mali et le Sahel se trouvent. Pour que nous puissions ensemble nous lever debout comme un seul homme, comme une seule femme, pour apporter notre soutien aux autorités, pour leur dire que les citoyens comprennent leurs besoins, leur vision de ce pas de la paix, de la sécurité durable et de ce multilatéralisme-là que nous voulons bâtir autour de notre sécurité ou de notre défense. Et ça, c'est le premier travail que nous faisons. Deuxième, nous faisons des plaidoyers auprès de l'ambassade de Russie au Mali, et aussi les Maliens qui résident en Russie, nous essayons de faire aussi un plaidoyer pour qu'elles aussi, du côté de la Russie, puissent accompagner ce processus. Et nous essayons aussi de faire comprendre aussi à la France et à l'Union européenne, à l'ONU, à la MINUSMA, que vraiment il faudrait accepter la participation de la Russie et de tous les pays membres du BRICS, comme je dis, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, pour qu'ensemble nous puissions donner la main pour réussir vraiment ce pari-là dont le Mali fait face et le Sahel en général.
C'était là Kassim Koulibaly, président du Corps des volontaires pour la réussite de la transition au Mali, une association qui plaide pour l'intervention de la Russie dans la gestion de la crise malienne. Vous venez d'écouter, chers invités, l'intervention de Kassim Koulibaly. Quel regard avez-vous sur cette soudaine manifestation pro-russe dans le pays? Je commence par vous, Bassirou Ben Doumbia.
Alors, merci, Madame Maïga. Et d'abord, sachez que ce n'est pas un soulèvement récent. Voilà. Et ce débat, il est rentré ce sujet est rentré dans le débat public il y a quelques années. Et ce qu'il faudrait peut-être faire, c'est de voir comment est-ce que nous sommes arrivés là. Voilà. N'oubliez pas qu'on ne va pas faire l'historique parce que c'est un secret de polichinelle. Lorsque le Mali a été attaqué, il y a eu l'intervention de l'armée française, d'abord sous la forme d'opération Serval, qui avec le temps a pris une autre forme de coopération qu'on a appelée Barkhane. Et avec évolution également, le terrorisme étant un mouvement, je pourrais dire, transnational, et on a un espace géographique ouest-africain, ou du moins j'allais dire sahélien, qui d'abord a été affecté. Alors, le mouvement, la coopération G5 et comment dirais-je, Barkhane a pris la forme aussi de la coopération G5 Sahel. Donc, ce qui va entraîner une conglomération de quelques États du Sahel dans le cadre de converger les idées et les actions et les stratégies pour des actions concertées afin de réussir la lutte contre le terrorisme. Alors, de cette période jusqu'à nos jours, ce que nous avons constaté au Mali et ailleurs, c'est que l'intervention française de manière générale, parce qu'il faut aussi la dissocier de la présence des Nations Unies, qui n'est pas pour appuyer et faire la guerre, mais pour appuyer le processus de paix et de reconstruction du pays. Donc c'est distinct. L'intervention française au Mali a été perçue, même par les Français, je veux dire, j'ai causé avec des diplomates français qui n'hésitent pas à parler d'enlisement de l'opération Barkhane. Ce qui voudrait dire que les résultats escomptés ou attendus n'ont pas été à hauteur des souhaits. Ça crée un sentiment de frustration au niveau national. Ça crée des mouvements de révolte au niveau national et du coup, ça redonne à la France la perception ou l'image que les Africains, de manière générale, ont d'elle depuis la période coloniale. Parce que ce qu'il ne faut pas ignorer, c'est qu'on est dans un système de coopération militaire, mais de coopération militaire manifestée ou justifiée par des enjeux économiques. Alors, dans ce contexte, pour beaucoup de personnes, la France profite de l'enlisement de la situation pour encore garder son hégémonie sur les espaces ouest-africains, ses anciennes colonies, pour pouvoir mieux contrôler les ressources et contrôler les mouvements des États. Et en même temps aussi, elle protège son territoire, parce que si aujourd'hui, on a réussi à chasser les terroristes de l'espace ouest-africain ou de l'espace sahélien, où est-ce qu'ils iront? Voici la question principale que certains aussi se posent. À défaut d'aller dans d'autres contrées, parce que les terroristes, généralement, c'est des personnes qui maîtrisent mieux le Sahel, à défaut d'aller dans les zones forestières qu'ils ne maîtrisent pas, ils vont se diriger peut-être vers les pays occidentaux ou vers le Maghreb. Le Maghreb qui se trouve à quelques kilomètres de l'Europe. Donc, pour beaucoup d'analystes ou pour beaucoup d'observateurs, la présence, l'enlisement de la crise française ou de l'intervention française dans la lutte contre le djihadisme ou le terrorisme est justifié par ces considérations-là. Mais ce qu'on peut dire de manière générale, c'est que ce n'est pas un sentiment purement malien. Il est presque africain, parce que partout où la France, il est question de la France, on voit sa responsabilité historique. On voit une mainmise sur les États, une manière de contrôler les richesses du pays, une manière de maintenir sa domination ou son impérialisme sur nos économies. Et c'est ce qui est généralement fâcheux et qui crée des sentiments parfois de révolte, de développement du nationalisme et de protection des intérêts nationaux. Et cela peut être... Ça peut entraîner d'autres événements jusqu'à aller à l'extrême xénophobie contre les intérêts français présents sur nos terres. On l'a vu ailleurs en Afrique.
Pour Bassirou Ben Doumbia, cette demande n'est pas actuelle. C'est une demande qui est déjà exprimée par la population il y a fort longtemps. Mohamed Diarra, est-ce que cette demande de la population, vu que nous avons assisté à des manifestations, surtout devant l'ambassade de la Russie, doit être prise en compte par les autorités de la transition?
Merci, déjà Mariam. Oui, effectivement, la demande en question, par rapport justement à la sollicitation de la Russie pour une intervention militaire, elle doit être prise au sérieux, elle doit être considérée par les responsables actuels, hein, et je vais faire allusion aux autorités politiques du moment. Mais au-delà des explications avancées par M. Doumbouya, moi j'ai juste envie de dire qu'il faut que l'on commence par situer les responsabilités par rapport justement à ce que notre pays est en train de vivre comme situation. C'est très important. Par rapport à la gestion politique, personnellement, j'ai horreur de deux choses. Le mensonge et le cafouillage. Et nous, depuis un certain moment, en fait, on a l'impression que le paysage politique du Mali, son apanage, c'est ces deux pratiques-là. Ça ne dit pas tout le temps la vérité et il y a énormément de tâtonnements. La mauvaise gouvernance qui est pointée du doigt et sur, depuis l'avènement de la démocratie a eu des répercussions très néfastes sur le fonctionnement de l'institution militaire. Donc aujourd'hui, ce chaos, en grande partie, en fait, ça s'explique par le fait que nous-mêmes, les Maliens, et nous ne sommes pas dans une dynamique, justement, de nous assumer et de prendre à bras le corps les problématiques du moment. D'ailleurs, j'estime qu'il y a beaucoup de gens, y compris certains responsables politiques, qui n'évaluent pas, justement, la gravité de la situation. Et cela se justifie par les événements récents des 24 et 25 mai, voilà, qui en réalité s'apparente à un coup d'État dans un coup d'État, donc qui complexifie la situation davantage. Donc juste pour dire que moi, avant d'entrer dans les détails par rapport justement à la sollicitation de la Russie, il faut que les uns et les autres comprennent que nous sommes les premiers responsables par rapport à ce qui nous arrive. Alors, au-delà de ça, au fait, par rapport à la présence de la France ici, c'est une analyse assez complexe à faire. Pourquoi ? Parce que c'est la question de l'efficacité de la présence de la France, effectivement, qui doit être analysée. C'est très important. Et en matière de coopération, ça fait des années que le Mali évolue avec la France, et ce, dans plusieurs domaines. Mais il faut dire que depuis le début de l'opération Serval, le volet de défense en matière de coopération est beaucoup décrié. Pourquoi ? Parce que après une intervention d'une dizaine d'années environ, on a l'impression que la situation sécuritaire du Mali alors s'aggrave au jour le jour. Et je me rappelle bien, il y a de cela juste une année, j'ai partagé un petit cadre d'échange avec M. Maier, l'ambassadeur de la France ici à Bamako, et il me dit, mais Mohamed, qu'est-ce qu'on peut faire pour le Mali. On est décrié, les gens pensent que nous ne sommes pas en train de faire des efforts. J'ai dit, ben, le problème pour moi, en fait, se trouve dans la communication. Il faut beaucoup communiquer. Communiquer sur le contenu de ce que vous êtes en train de faire comme mission, c'est important. Et communiquer également sur les résultats de ces missions. Premier aspect. Deuxième aspect, il faudra faire plus. C'est vrai, la France est en train de faire énormément d'efforts. Ce n'est pas évident de lutter contre les terroristes, qui plus est dans le Grand Sahara. Ça requiert beaucoup d'efforts, ça requiert beaucoup d'implications. Mais jusque-là, au fait, ce qui est attendu par les Maliens n'est pas encore obtenu. Donc c'est ce qui, pour moi, explique depuis un moment et, cette assertion générale qui se fait contre le maintien de la France. Et, mais ce qui est problématique, c'est de vouloir faire un choix en matière de coopération dans le domaine de la défense entre la France et la Russie. Je crois que ça fait un moment, la France est dans une dynamique de mettre en place une coalition internationale autour du Mali. Voilà. Donc pour aider le pays à retrouver justement l'intégrité de son territoire et à asseoir un climat de paix durable. Donc je vois très mal cette même phrase, France, je vais dire, refuser justement que les autorités maliennes tendent la main à la Russie. Donc je pense qu'il faut créer une synergie d'ensemble et je reste aussi convaincu que la Russie pourrait contribuer à hauteur de souhait, justement, à la stabilisation et à la mise en place d'un climat de paix et de sécurité au Mali.
Maître Cheikh Oumar Konaré, vous êtes au téléphone. Une coopération géostratégique avec la Russie est-elle une bonne option pour le Mali actuellement?
Je vous remercie. En réalité, il faut se garder des passions et il faut se garder de gouverner selon l'humeur de la foule. Tant qu'on fait ça, on n'avancera à rien. Depuis 8 ans, les forces françaises sont au Mali. Et le constat est que, malgré leur bonne volonté supposée, les forces n'ont pas pu éradiquer le terrorisme. Au contraire, le terrorisme s'est étendu du nord au centre, puis au sud et à l'est. Dans ces conditions, avant toute chose, il est bon de faire un bilan de l'activité antiterroriste française sur notre territoire. Un bilan sans complaisance qui dresse donc les résultats. Qui fait le diagnostic des échecs, des causes des échecs, des conséquences des échecs, mais aussi des remèdes que la France compte mettre en œuvre pour redresser, pour corriger son action dans notre pays. Et une fois cela fait, il appartient aux autorités maliennes de montrer leur volonté de multilatéralisme aux autorités françaises. En leur disant, bon, vous êtes là, vous opérez principalement au nord, mais nous voulons aussi diversifier notre partenariat. Dans le principe, cela n'est pas contestable puisque vous-même vous faites appel à une multitude d'autres pays. Mais nous aussi, on veut faire appel à la Russie pour qu'elle vienne, par exemple, s'installer dans le sud ou dans l'est ou bien vers Nara et autres, là, Kita et autres, pour éviter la propagation du terrorisme. Et vous, Français et alliés, vous vous occupez de telle ou telle partie du territoire. Le territoire est très grand. C'est 1 240 000 et quelques kilomètres carrés qui ne peuvent pas être couverts par les seules forces françaises. Donc, qu'il y ait une répartition des rôles de telle sorte que les Français s'occupent d'une partie du territoire, pourquoi pas la zone des trois frontières, la zone de Kidal et autres. Là. Et les forces russes vont s'occuper d'une autre partie du territoire pour qu'il n'y ait pas une percée des terroristes à ce niveau. Comme ça, aucune force ne va gêner l'autre. Et il faut adapter les accords militaires franco-maliens à cette évolution, pourquoi ne pas le faire? Mais je ne suis ni partisan d'un départ précipité des Français du sol malien, ni d'une arrivée désordonnée et passionnée des forces russes sur notre territoire. Je suis pour une réflexion approfondie sur l'ensemble du phénomène et les perspectives. Il ne faut surtout pas agir sous la pression de la foule ou au gré des humeurs des gens. Il faut faire une analyse, comment on appelle ça, froide de la situation et dégager des perspectives d'une collaboration entre les Russes, les Français, la MINUSMA et toutes les autres forces qui se trouvent sur notre territoire.
Alors, pour Chekmar Konare, le territoire est assez vaste, que les forces russes peuvent bien être présentes au Mali. Les réalités du terrain, alors, sont-elles propices aujourd'hui pour un changement dans la gestion de la crise malienne, Bassirou?
Alors, si on part de l'idée qu'il n'y a aucune coopération n'est utile que lorsqu'elle apporte des avantages à chacune des parties. Alors, aujourd'hui, parlant de bilan, qu'est-ce que le Mali a gagné durant les 8 années de présence française? On peut faire le bilan ici. Je pense qu'on n'a pas besoin d'appeler des experts en stratégie ou en défense pour comprendre que ça ne va pas. Et la France, je vous dis, en a mis en conscience. Moi, j'ai discuté avec des diplomates français, des ex-ambassadeurs qui reconnaissent officiellement que la crise est dans une sorte, la présence française est dans une sorte d'enlisement en réalité. Donc, ce qui n'est pas favorable pour la résolution du problème du terrorisme. Alors, parlant de coopération. Moi, comme il a dit, hein, je ne suis pas aussi pour le départ imminent ou immédiat des Français, mais je dirais plutôt peut-être parler de renforcement. Renforcement en ce sens que la France, elle est déjà présente, qu'on le veuille ou pas. Le Mali aussi est parti à certaines conventions sous-régionales telles que le G5 Sahel, qui regroupe une association d'États du Sahel. Alors, aujourd'hui, si la France part et que même elle s'installe dans un autre pays, le terrorisme ne sera pas tout juste. Le départ de la France n'entraîne pas forcément la fin du terrorisme. Tout comme l'intervention russe n'entraîne pas aussi la fin de la crise contre le terrorisme. Donc, pour moi, aller dans le sens d'un renforcement de la coopération peut être l'une des meilleures options, dans la mesure où le Mali étant parti à ses conventions régionales, la France, si elle quitte ici, elle est liée par d'autres conventions avec ces États-là. D'ailleurs, c'est là que la chose se complique, parce qu'une fois que les terroristes sont dans ces zones, leur mouvement ne peut pas être contrôlé. Nos frontières, tout le monde sait comment elles sont. C'est des frontières qui sont tracées parfois par un petit marigot ou parfois par des petites rues. Alors, ces mouvements de terroristes, personne ne peut les contrôler. Donc, pour moi, chasser, entre guillemets, les Français dans le cadre de la lutte contre le terrorisme n'est pas une option qui me semble favorable. Peut-être que c'est là-bas que Maître parle de l'aspect émotionnel. Donc, aller dans le sens d'une coopération renforcée, France, Russie ou même autre pays, pourquoi pas? Personnellement, tant que le Mali peut tirer sa part du jeu pour que, de manière très consensuelle, l'ensemble du territoire, les 1 244 000 km² soit, recouvre leur sécurité et que tous les Maliens sur l'ensemble du territoire puissent vaquer à leurs occupations librement, je pense que c'est ce qui doit prévaloir et non forcément chasser un pour faire entrer l'autre. De toutes les manières, en matière de coopération militaire, il n'y a jamais du gratuit dedans. Ça, on l'a vu, le cas russe en Syrie. Et en réalité, on pense que c'est l'armée russe qui est intervenue en Syrie. Et c'est le succès de l'armée et de l'intervention russe qui justifie le maintien de Hassan, du président syrien, j'ai oublié son nom, Bachar al-Assad au pouvoir. Non, c'est une armée privée, les Wagners, qui sont intervenus en Russie. Et toutes les bombes larguées, toutes les munitions tirées sont facturées. Ces enjeux, qui doit les résoudre? Donc, pour moi, ce qui importe aujourd'hui, c'est comment et sous quelle forme cette coopération devrait prendre corps pour que le Mali puisse s'en sortir.
Alors, Mohamed Diarra, en quoi cette coopération avec la Russie est bénéfique pour le Mali en son état actuel?
Bon, au fait, déjà, il faut partir de la situation actuelle. Comme ça a été dit par les co-débatteurs, la présence française n'a pas forcément fait évoluer positivement la situation. Et je reste convaincu que la France aussi sait qu'elle n'est pas à même de parvenir au bout des terroristes ici au Mali. Et le terrorisme, au fait, ça crée une situation de guerre asymétrique et qui implique suffisamment d'organisation, qui implique suffisamment de moyens, à la fois sur le plan des ressources humaines que sur le plan logistique. Donc c'est compliqué, c'est très difficile. Et nous, on n'a pas envie de s'éterniser dans cette situation conflagrationnelle, entre guillemets. Et il faut que ça évolue, et ce, le plus rapidement possible. De toutes les façons, le vrai combat, la vraie lutte contre le terrorisme, il faudra qu'on restructure notre armée et la mettre dans les conditions pour mener cette lutte et pour mener ce combat contre le terrorisme. Et il n'est pas aussi envisageable de s'inscrire dans une dynamique conjoncturelle par rapport à la présence des forces étrangères ici. Donc pour toutes ces raisons, il faille créer les conditions, et ce le plus rapidement possible, pour non seulement reconstruire notre État, mais aussi mettre l'armée dans les meilleures conditions afin qu'il puisse jouer sa partition dans cette guerre contre le terrorisme. Alors, par rapport à la question qui consiste à savoir en quoi cette présence éventuelle de la Russie pourrait être un plus. Et comme il a été dit tout de suite par Maître Konaré, au fait, la zone d'intervention, elle est assez large. Voilà. Et en dépit du nombre de militaires qui est relativement important, du nombre de militaires français, et je pense que la France n'a pas suffisamment de possibilités de couvrir le champ, voilà, du fait de son étendue. Donc la venue de la Russie pourrait faciliter le maillage du champ d'intervention, c'est très important. Et également, la Russie est réputée être relativement performante, voilà, dans la lutte contre le terrorisme, et a suffisamment d'expérience. Quand je dis « ah », je parle de son armée, suffisamment d'expérience et d'expertise pour avoir évolué, et comment dirais-je, en Syrie, comme il le disait. Donc en réalité, ça pourrait être un coup de pouce, un énorme coup de pouce, et pour venir rapidement au bout des terroristes et créer un environnement favorable à la restructuration de l'État malien.
Maître Cheikh Omar Konaré, une possible coopération avec la Russie engendrerait quoi pour le Mali?
Vous savez, quand vous ne raisonnez pas sur la base du bon sens, vous compliquez tout et vous ne trouverez aucune solution à aucun problème. Et nous autres, nous sommes des avocats. Quand un client a des problèmes, il peut constituer parfois une équipe de 10 avocats. Pourquoi? Tu vas trouver qu'un avocat n'est pas très brillant, mais il est très assidu. C'est-à-dire qu'il ne rate aucune audience. Il lit tous les papiers. Il est extrêmement attentif à tout ce qui se dit dans les papiers. OK? Tu vas trouver un autre qui est intelligent, mais qui n'est pas très assidu. Tu vas trouver un autre qui est très ancien et qui connaît la plupart des juges qui interviennent dans les dossiers et ce qui peut faciliter l'évolution du dossier du client. Donc, quand tu crées, constitues une équipe, chacun a ses qualités, chacun a ses défauts, et c'est l'ensemble de ses qualités et défauts qui permet de faire évoluer le dossier du client. C'est la même chose. C'est-à-dire que lorsque vous faites venir la Russie au Mali, vous allez lui confier, par exemple, pour ne pas rendre sa présence trop dérangeante pour les Français, vous allez lui donner, par exemple, les régions, la sécurisation des régions de la première des régions de Kaï, les régions du district de Bamako, les régions de Kouloukoro, Sigasso et Ségou. Ouais. Bon, donc vous le dites, vous sécurisez ces zones-là. Il ne faut pas qu'un seul terroriste soit retrouvé dans ces zones. Et du coup, ça permet de stabiliser ces régions dont une partie échappe au contrôle de l'État malien. Vous savez que des terroristes se sont installés dans la forêt à Kita. Vous savez qu'il y en a à la frontière du Burkina, à la frontière de la Côte d'Ivoire. Donc la Russie va permettre de nettoyer ces zones. Maintenant, à partir de Mopti jusqu'à Gao, Tombouctou et autres, là, ça va être ça. Ces zones vont être confiées aux Français. Ils auront suffisamment de quoi s'occuper là. Hein? Ils n'auraient aucune raison de se plaindre de l'activité de la Russie au sud et à l'est du pays. Donc cette répartition du territoire entre les différentes forces peut être un facteur pour alléger le travail des uns, n'est-ce pas, et favoriser une percée contre les terroristes. De surcroît, ce que j'aimerais dire, c'est que tout ceci serait inutile si l'armée malienne elle-même ne se met pas en condition pour traquer les terroristes. Vous savez, en Bambara, il y a un proverbe qui dit, quand vous voulez que les gens viennent vous aider à tuer votre lion, il faut que vous-même vous preniez la tête du lion. Il se trouve que nous autres Maliens, nous n'avons pas la tête du lion, nous n'avons que la queue. Vous voyez ? Mais nous faisons presque rien. C'est les Français qui sont au nord qui nous disent qu'ils vont tout là-bas et nous ne savons même pas ce qu'ils sont en train de faire. Il faut que ce soit nous qui soyons sur le terrain en train d'affronter partout le terrorisme et, en cas de besoin, faire appel aux Français pour venir nous aider dans telle ou telle localité. Mais il y a plein de localités où l'armée malienne ne se trouve même pas, tant que les Français. Mais comment vous voulez que nous venions à bout du terrorisme dans ces conditions? Nous sommes devenus étrangers militaires dans sur notre propre territoire. Ce sont les autres qui combattent et nous sommes des supplétifs. Alors que nous devons être les premiers combattants et les autres des supplétifs. Donc il faut inverser l'ordre d'intervention sur le territoire, répartir le territoire entre les différentes forces, et ça aussi c'est un droit que nous avons. Aucun traité international, aucun accord international ou bilatéral ne devrait nous ôter notre souveraineté et notre libre choix. C'est comme au marché. Vous allez acheter du piment quelque part. Il se trouve que le piment sous ce hangar coûte 20 francs. Vous avez le droit d'acheter le piment là où on le vend à 10 francs. Vous voulez acheter des condiments, mais vous devez avoir le libre choix d'acheter des poivrons ou bien des épinards plutôt que des choux.
Hein? Cheikh Omar Konaré, c'est compris pour vous, la présence de la Russie est bien possible au Mali aux côtés des autres forces qui viennent aider le pays également. Et quand on parle de partenariat, souvent on dit c'est gagnant-gagnant. Alors, qu'est-ce que gagnerait la Russie à être présente au Mali, Bassirou Ben Doumbia?
Alors, nous sommes en matière de coopération, c'est le domaine de la diplomatie, c'est le domaine des relations internationales. On ne va pas à un accord ou à une convention sans qu'on évalue ce qu'on y gagne. Alors, ce que pourrait gagner la Russie, je ne sais pas, mais je ne suis pas dans le secret de l'État russe. Mais ce qui est certain, c'est que le Mali n'est pas un État pauvre. Ça, il faut qu'on se le dise. Et si la France est là, elle n'est pas là parce que pour avoir des bénédictions en retour. Ça, je l'ai dit en introduction, il n'y a pas de coopération militaire gratuite. Ça n'existe pas. L'humanitaire n'existe pas dans l'armée en matière militaire. Alors, si la France est là, on suppose que c'est parce qu'elle a des intérêts économiques dans l'espace ouest africain qu'elle veut protéger. Parce que si le terrorisme se déplace d'un pays à un autre, il peut arriver que l'intérêt français soit très minime au Mali, mais qu'il soit très très, très important dans un pays frontalier du Mali. Alors, si le mouvement terroriste se dirige vers ce pays, c'est une menace pour l'intérêt français. C'est une menace pour l'économie française. Alors, dans ce même ordre d'idées, la Russie va intervenir avec des intentions que peut-être vous et moi ne saurons pas, mais qui seront contenues dans le document de l'accord, nécessairement. Ou encore même, quand elle vient, généralement, en contrepartie, elle espère obtenir quelque chose. Le jour où des opérateurs économiques russes vont s'installer au Mali dans un cas de compétition sur un marché public minier, mais celui qui nous a aidés à nous apporter la paix devient à un avantage préférentiel. Cela est admis en matière de coopération. Entre celui qui nous a aidés à chasser nos ennemis par rapport à celui qui n'a pas contribué avec nous, nous avons un devoir moral à accorder plus d'intérêt à celui qui nous a aidés lorsque nous étions dans les ténèbres.
Je rappelle à nos auditeurs que ce grand dialogue est réalisé en partenariat avec le programme d'engagement civique PEC. Monsieur Mohamed Diarra, quelle lecture avez-vous d'une éventuelle intervention de la Russie dans la lutte antiterroriste au Mali?
Bon, on vient d'en parler tout de suite. J'ai l'impression que la question se répète. Mais avant d'apporter encore des éléments de réponse à la question, et j'ai envie d'expliciter qu'en réalité, au fait, il n'y a aucune contrainte d'ordre juridique qui empêcherait aujourd'hui le Mali d'aller vers une coopération bilatérale en matière de défense avec la Russie. Et je ne pense pas aussi qu'il y ait des dispositions, notamment dans les différents accords. Voilà justement et de coopération et bilatérale en matière de défense entre la France et le Mali et qui permettrait à la France de pouvoir empêcher justement la concrétisation d'une coopération avec la Russie. Et d'ailleurs, le dernier accord, le traité de coopération bilatérale en matière de défense que le Mali a signé avec la France, prévoit comme principe justement la reconnaissance de la souveraineté étatique des parties. Quand je dis des parties, il s'agit du Mali et de la France. Donc cet aspect de la chose est très très important. Donc que les uns et les autres comprennent qu'il n'y a absolument pas de barrière par rapport à une venue éventuelle de la Russie. Alors, comme on le disait, qu'est-ce que cela va changer? Et moi, je dis tout simplement que, au fait, pourquoi tout ça? Parce que l'intervention française n'arrive pas à produire les résultats escomptés. Je profite également de l'occasion pour rebondir sur un aspect, c'est l'évaluation. L'évaluation de la présence française. Et l'accord de défense qui a été signé en 2014 prévoit un comité de suivi des opérations, des missions qui seront mises en œuvre dans le cadre justement de l'accord. Et ce comité, au fait, il est présidé et co-présidé par des responsables civils ou militaires français ou maliens. Donc, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui les Maliens qui siègent au sein de ce comité, voilà, donc, de faire un diagnostic de la situation pour situer les vraies raisons de l'échec de la présence de l'armée française ici. Et à partir de là, c'est donner les moyens pour corriger ces facteurs d'échec et faire en sorte que, à l'avenir, la mission, la présence de la France puisse justement être efficace. Donc là, c'est des choses qu'il faille faire. Et au-delà de ça, lorsque la Russie doit intervenir, et je disais tantôt qu'en réalité, ça va permettre de mieux couvrir le territoire malien. Et la Russie aussi dispose d'une expertise avérée, voilà, et dispose d'une armée relativement efficace que celle de la France, ça, il faut le dire. Donc ça pourrait nous permettre justement d'évoluer rapidement et ce, de façon positive, pour sortir peu ou prou de ce bourbier. Et à partir de là, il faut que les autorités maliennes se donnent les moyens de réformer, pour ne pas dire de refonder, notre armée. Parce que le vrai combat, la vraie lutte contre le terrorisme, personne ne le fera à notre place. Et j'ai envie de dire aussi qu'en réalité, au-delà de la question de performance des armées, à tous les niveaux, c'est très compliqué et ça s'inscrit dans la longue durée de la lutte contre le terrorisme. Le cas de l'Afghanistan est un cas très patent en la matière, où l'armée américaine y était des années et des années, mais sans pour autant changer favorablement les donnes, ça il faut le dire. Donc il va falloir que l'on soit relativement patient, voilà, et qu'on prenne cette situation avec suffisamment de philosophie, bien réfléchir, trouver des partenaires stratégiques. La Russie en est une, d'ailleurs. Au fait, ça ne sera pas une coopération nouvelle. Le Mali, aux premières heures de son indépendance, voilà, donc, a assoir beaucoup de cadres de coopération avec la Russie. Et le premier plan de développement économique et social, d'ailleurs, du Mali, a été financé en grande partie, voilà, donc, par la Reçu. Donc, ça sera une forme de redynamisation de la coopération entre le Mali et la Russie. Et si d'aventure ça doit être concrétisé, ça permettrait justement de nous aider à sortir de cette situation.
Maître Cheikh Omar Konaré, le Mali est dans une zone qu'on appelle le G5 Sahel. Comment la Russie arrivera-t-elle à conjuguer sa coopération avec le Mali sans les autres membres de cette zone du G5 Sahel?
Déjà a dit qu'il faut répartir les territoires.
Déjà, ça c'est au Mali. Vu que la lutte contre le terrorisme, c'est la France, de la force Serval, c'est devenu Barkhane. Et Barkhane travaille dans les 5 pays membres du G5 Sahel.
Nous nous affecterons à la Russie les zones que nous souhaitons en territoire malien. On n'a pas besoin de leur parler du Niger ou du Burkina ou autre. Nous leur affectons les zones que nous estimons devoir leur affecter en raison de notre propre plan sécuritaire. OK? Voilà, ça, donc on va leur affecter le Bamako, Kaï, Tigasso, Koulikoro et Ségou, ou du moins une partie de Ségou. Le reste là, le G5 et les Français n'ont qu'à s'occuper de ça.
Bassel Ben Doumbia, êtes-vous d'accord avec cette analyse que Maître Cheikh Omar Konaré vient de faire?
C'est une analyse, je l'apprécie à sa juste valeur. Mais ce que je voudrais dire, c'est que, comme il le sait, Maître Konaré, c'est un éminent juriste, et je suis de l'école de droit, et l'une des fonctions régaliennes de l'État, c'est la défense nationale. Pendant longtemps, la défense a été toujours du domaine exclusif de l'État. Chaque État était libre et souverain d'entretenir des coopérations militaires avec n'importe quel État qu'il voulait. Mais n'oublions pas que le monde, les choses ont évolué. La question terroriste est devenue une question transnationale ou transfrontalière. Et du Mali, le mouvement terroriste du Mali peut avoir des répercussions tout de suite dans un pays frontalier au Mali. Donc le Mali à lui seul ne peut plus définir la stratégie, une stratégie commune capable de résoudre le problème sans tenir compte des enjeux environnementaux ou géostratégiques. Donc ceci étant, et il est assez important que ce facteur environnemental ou géostratégique ou sous-régional soit déterminant dans le choix de la politique nationale de défense que nous voulons mettre en place. Parce que si nous ne tenons pas compte de ces facteurs qui nous entourent, même si nous réussissons à moyen ou même dans l'immédiat à booster le terrorisme hors de nos territoires, ne soyons pas surpris que même dans 5 ou 10 ans, que encore le problème ressurgisse.
Alors parce que nous sommes à moins de 2 minutes de la fin de cette émission. De une dernière question pour un tour de table. Au regard de tout ce que vous venez de dire, est-ce à dire que la France a échoué dans sa stratégie? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, Mohamed Dira? Je commence par vous.
Oui, je dirais que c'est un échec en tout cas, hein. c'est un échec la présence française hein. Pour le moment. Voilà, un échec qui pourrait s'expliquer. Je disais tantôt qu'il faille chercher à situer les vraies raisons de cet état de fait. Mais ayez à l'esprit que une guerre asymétrique, ce n'est pas facile, c'est très compliqué. Alors, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui
rapidement, qu'est-ce qu'il faut?
Il faut aujourd'hui que les Maliens se réunissent pour rapidement mettre en place un État solide qui pourrait se donner les moyens de consolider notre armée et qui pourrait prendre justement, je parle de l'armée, la relève après les forces étrangères.
Maître Cheikh Omar Konaré, que faut-il faire maintenant?
Moi, je crois qu'avec la bonne volonté, tout est possible.
On a du mal à vous entendre, Mamadou Bassirou Doumbia, monsieur Doué.
Avec de la bonne volonté, on peut assurer une très bonne collaboration même entre la Russie et la France. Souvenez-vous que la Russie travaille en bonne intelligence avec la MINUSCA en Centrafrique.
Merci beaucoup, Cheikh Omar Konaré. Tout est possible, il suffit juste de doser, c'est ce que vous venez de dire et c'est sur cette note que prend fin le grand dialogue de ce soir. Merci à nos invités, à nos téléspectateurs et auditeurs. À la présentation, c'était Mariam Maïga, nos invités Bassirou Ben Doumbia, auditeur en politique publique. Boubacar Bokoum n'a pas pu se rendre dans le studio. Mohamed Diarra, spécialiste de la gestion des performances publiques. Maître Cheikh Omar Konaré, je suis Mariam Maïga. À la vidéo, il y avait Petting Diarra, mise en onde Mamadi Keïta. Merci à toutes et à tous et à la prochaine.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Halo Gmondi.
Chenne Berry.
Sigi Kafoba.